Studio Tamani, voici les informations en français.
À vous qui nous suivez en ce moment sur la 91.9 FM à Menaka, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Sur 9000 écoles au Mali, près de 1500 sont fermées ou non fonctionnelles. La moitié de ces écoles sont dans la région de Menaka, une situation présentée cette semaine par l'UNICEF. À Conakry, le Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix s'est penché sur l'évolution du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les panélistes ont aussi évoqué le rôle des religieux dans la lutte contre ce fléau. Rentrée scolaire 2023-2024, l'insécurité fait planer le doute sur une reprise effective dans certaines zones. Le développement de ces points dans quelques instants avec Adama Amadou Aïtara à la mise en onde Mamadou Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au Mali, à cause de l'insécurité, près de 1500 écoles sur 9000 sont fermées ou non fonctionnelles. Ces indications ont été rendues publiques par l'UNICEF à travers son représentant à Bamako. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance précise que Menaka compte la moitié des écoles fermées et Mopti enregistre près de 25%. Dans le document, l'agence onusienne a aussi donné des détails sur les initiatives prises pour maintenir le niveau des enfants. Mamadou Samassikou.
Il est indiqué dans le document que 500 enfants seront privés en raison de l'insécurité. Le plus grand nombre d'enfants affectés se trouve dans les régions de Mopti et Menaka. Selon l'UNICEF, en plus des attaques des groupes armés non étatiques, cette situation est aussi liée au manque d'enseignants. Raison pour laquelle le document indique que le département en charge de l'éducation au Mali évoque plutôt l'expression « école non fonctionnelle » qu'école fermée. Le document a aussi mentionné qu'au moins 24 enfants ont péri dans l'attaque du 7 septembre 2023 contre le bateau sur l'axe Gao-Tombouctou. Les fonds des Nations Unies pour l'enfance informent qu'un soutien scolaire dans les zones d'insécurité est donc nécessaire, ce qui a conduit l'UNICEF à mettre en pratique des cours à travers la radio. Les investissements dans la paix et la sécurité doivent aller de pair avec la scolarisation et l'apprentissage de tous les enfants, a entre autres conclu le document.
À Gao, dans le nord du pays, l'académie affirme que toutes les dispositions sont prises pour une bonne reprise des cours. Les responsables précisent que, comme l'a ordonné le département de l'éducation, tout est fin prêt pour que l'année scolaire 2023-2024 démarre avec des leçons modèles. Concernant les écoles fermées dans la région, le DAE affirme que là aussi, il y a eu du progrès. Abdoul Sadou Abdoul, directeur de l'académie d'enseignement de Gao, est joint ici au téléphone par Fadit Al-Fimeika.
On a 129 écoles fermées. Sur ces 129, l'année dernière, on a pu ouvrir 9 écoles. Coup de chapeau pour la zone de Bourem. Parce que là, avec nos sensibilisations communautaires, avec l'appui des collectivités, les populations elles-mêmes ont cotisé pour les volontaires qui exercent dans cette zone. Il y avait 10 écoles fermées. Les 9 écoles sont ouvertes l'année dernière. Maintenant, il faut qu'on fasse la rentrée pour voir de visu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles solutions il faut faire. Bon, on est envoyé par les PDI. On a même à travers l'UNICEF diagnostiqué au moins quelques écoles, même si c'est par GPS qu'on puisse localiser pour voir là où on peut mettre ces PDI.
À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents d'élèves se bousculent devant les librairies, les boutiques et d'autres points de vente de fournitures scolaires. Toutefois, ils estiment que les prix ne sont pas abordables par rapport à l'année précédente. Les vendeurs, conscients de la situation, affirment travailler pour satisfaire la clientèle. Sali Sissoko.
Vous l'aurez compris, marchander, c'est l'option trouvée par les clients face à la cherté des fournitures. Néanmoins, certains trouvent leur compte et ne cachent pas leur satisfaction par rapport aux qualités des matériels.
C'est pas les mêmes modèles, je ne sais pas si la qualité aussi diffère.
J'ai dépensé plus de 100 000 francs.
On a acheté des sacs, des gourdes. J'ai dépensé à peu près 70 000.
Pas seulement 2500. Si tu as 4 ou 5 enfants.
Les vendeurs de leur côté déplorent aussi cette flambée des prix. Pour eux, le problème se situe à plusieurs niveaux.
On revend selon les prix d'achat.
Pour le moment, nous n'arrivons pas à vendre beaucoup. Il y a des gens qui se plaignent, mais déjà nous sommes aux trentaines de clients, donc ça va.
Tout a changé, le dédouanement a augmenté. Cela se répercute sur les prix.
Face à cette situation, les commerçants affirment qu'il serait difficile pour eux de générer des économies.
Toujours en lien avec la rentrée scolaire à Bafoulabé, face au manque d'enseignants dans la commune rurale de Mayina, le maire a pris des mesures proactives. Ainsi, 15 enseignants diplômés de l'IFM ont été recrutés sur la base d'un contrat d'un an et renouvelable sur demande. Il a ajouté que leur rémunération pendant cette période s'élève à 9 millions de francs CFA, soit à 50 000 francs CFA par enseignant pendant 12 mois. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. À Menaka, une attaque conduite par plusieurs motos a ciblé le domicile d'un responsable du mouvement du salut de l'Azawad et le siège de la plateforme ce jeudi vers 19h. Des tirs nourris ont retenti pendant un instant, mais aucune perte en vie humaine n'a été constatée. Le Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme se poursuit à Conakry, en Guinée. Un panel sur l'Afrique de l'Ouest face au terrorisme a été largement débattu par les représentants des pays invités. Quel est le mode opératoire des groupes terroristes? Comment les religieux peuvent lutter contre ce fléau? Les panélistes ont tenté d'apporter des réponses à ces préoccupations. Plus de précisions avec Aïssata Diarra, notre envoyé spécial.
Annick Bado, ambassadrice de la paix et représentante du Burkina Faso, a mis la lumière sur la cible du terrorisme. Bien que les hommes sont en premier plan, les femmes subissent plus les conséquences. D'où le soutien à ces victimes a-t-il proposé.
Dans certains villages, il y a des terroristes. Ils tuent les hommes et ils laissent les femmes et les enfants. Si on contribue à l'autonomisation des femmes, cet argent les permet de scolariser leurs enfants et d'empêcher un potentiel terroriste de naître.
Les religieux peuvent jouer un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce que pense Karamoko Diawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses de la Guinée.
Les religieux doivent jouer un rôle de réparation, de réconciliation, pour faire en sorte que toute l'humanité accepte que nous devons vivre en paix, le respect mutuel.
Éviter la marginalisation, améliorer le système éducatif et cultiver le patriotisme dans la zone ouest-africaine sont d'autres stratégies proposées par des panélistes pour lutter contre ces fléaux. Aïssata Diarra depuis Conakry pour Studio Tamani.
Des hommes armés non identifiés ont sommé les habitants de Domé, commune de Ségué, dans le cercle de Bankas, de quitter le village. C'était le 27 septembre 2023. Au même moment, des tirs ont été entendus à Kobo-Lagodo, créant une panique au sein de la population. Des sources locales rapportent que les présumés bandits s'y sont enfuis avec des animaux. Les mêmes sources ajoutent qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine dans les deux localités. Les élèves reprennent le chemin de l'école à partir de ce 2 octobre 2023. Dans la capitale comme dans les régions, élèves et parents se préparent pour accueillir cette nouvelle rentrée. Cependant, au centre et nord du pays, l'insécurité fait planer les doutes sur une reprise effective et certains parents font des propositions. Leurs propos sont recueillis ici par Issa Oumar Togola.
Les cours ont été faits déjà propres. Les fournitures sont prêtes aussi. Maintenant, on attend le 2 octobre.
Bon, on prépare toujours en payant les fournitures scolaires, en évaluant aussi leur niveau. On s'attendait quand même qu'il y aura une conférence pédagogique au niveau de chaque cap pour faire une évaluation rétrospective de l'année écoulée. Tirer les enseignements, poser des corrections nécessaires.
J'espère que cette année sera différente. Il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas le niveau. On est obligé de payer d'autres enseignants pour des cours à domicile.
Vu la situation sécuritaire, comment elle est? Il faut qu'il y ait de nouvelles mesures, il faut que l'État montre qu'il prenne certaines dispositions pour que moi je puisse envoyer mon enfant à l'école.
S'il y a même lieu de peut-être pousser la date, prolonger les vacances, chercher des solutions pour protéger les enfants, parce que c'est vraiment dangereux. Donc.
À présent, le résumé des actualités phares de la semaine avec Halima Yattara.
Alors Adama, on commence ce rétroacti par se communiquer cette semaine sur le dû report des élections présidentielles initialement prévues pour février 2024. Les justificatifs rapportés par le porte-parole du gouvernement sont des raisons techniques. L'actualité, c'est aussi l'annonce du retrait définitif des forces françaises du Niger. L'information a été donnée par le président français Emmanuel Macron. Après des semaines d'arrêt des cours pour raisons d'insécurité à la faculté des sciences techniques, les professeurs scolaires ont repris lundi dernier. Une reprise marquée par l'interpellation de plusieurs étudiants pour détention illégale d'armes et équipements militaires. Enfin, on termine avec la célébration du Mauloud, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une commémoration intervenue dans un contexte sécuritaire tendu dans plusieurs localités du pays.
Et nous retrouvons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam, c'est quoi le thème du Grand Dialogue aujourd'hui?
Bonsoir Adama, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est « La danse traditionnelle, un art du corps et des esprits ». Pour en parler, nous avons M. Modibo Dambélé, représentant du Recotrad à Tomignan, Awa Dambélé, danseuse, et Hamadou Sanogo, professeur au conservatoire Balafaseke Kouyaté.
Merci Mariam, très bon débat. 18h passées des 10 minutes dans ce studio. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Bon début de week-end à tous. Restez toujours à l'écoute dans un instant, le magazine.
Est diagnostiqué. Le ministère de la Santé et du Développement Social recommande d'adopter les mesures de protection pour empêcher la maladie de se propager au Mali.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Elle se caractérise par une fièvre avec des maux de tête, des douleurs aux articulations et peut entraîner des vomissements de sang. Vous avez une sensation de grande fatigue et des boutons sur la peau.
La dengue se transmet par les piqûres de moustiques. Pour se protéger de la dengue, des gestes simples.
Couvrez les fûts et réserves d'eau.
Dormez sous une moustiquaire.
Éliminez les déchets inutiles dans et autour de la maison.
Protégez-vous des piqûres de moustiques en portant des habits longs qui couvrent tout le corps.
Détruisez les gîtes lavaires, eau stagnante, désherbage, vidange, des ordures, etc.
Vous pouvez aussi utiliser les répulsifs, crème, spray, lotion anti-moustique, mais pas chez les petits enfants et pas sur le visage.
Et n'oubliez pas que la moustiquaire est le moyen prioritaire de protection pour les enfants.
Ceci est un message des studios Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Au Mali, le secteur informel représente une part importante de l'activité économique du pays. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, publié en avril 2020, le secteur emploie plus de 95% de la population active et contribue au développement économique au Mali. Cependant, des économistes estiment que le secteur, bien que pourvoyeur d'emplois, représente un manque à gagner de 9,8% à terme de recettes fiscales pour l'État. Le magazine Économie d'aujourd'hui s'intéresse à l'apport du secteur informel dans l'économie nationale, une réalisation de Ali Sissi.
Ils sont entre autres soudeurs, tailleurs, coiffeuses, transformatrices de produits agricoles à Sikasso, Kaï ou encore Bankas. Ces travailleurs qui évoluent dans l'informel affirment qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins sans souvent avoir recours au crédit bancaire.
Je travaille, mais je n'ai jamais pris crédit. Les gens m'ont conseillé d'aller prendre crédit, ils ont tout fait, j'ai refusé. Ils m'ont dit aussi d'aller ouvrir compte, je n'ai pas ouvert d'avoir compte.
Moi, je n'ai jamais demandé le crédit même pour travailler.
Cependant, il y en a parmi eux qui sollicitent des crédits au niveau des banques ou microfinances pour booster leur chiffre d'affaires. C'est le cas de Karamogo Djiré, menuisier à Ségou. Ce dernier affirme que l'accès à ces crédits n'est pas facile.
En vérité, si tu débarques dans une banque aujourd'hui à Ségou pour demander un prêt, ils te font faire des allers-retours indéfinis. Finalement, tu te lasses et tu laisses tomber. J'ai l'habitude de solliciter un prêt auprès d'une microfinance. J'ai travaillé avec cet argent et je l'ai remboursé intégralement comme convenu. Mais après, je suis allé à plusieurs reprises solliciter un nouvel prêt sans succès.
Des affirmations que le chef de CAFO Djiguiné de Sikasso ne soutient pas. Pour Youssouf Sogoba, l'accès au crédit est ouvert à toute personne qui le sollicite et le recouvrement se fait dans la douceur.
Si tu contractes un prêt chez nous et que tu rencontres des difficultés pour le remboursement, on t'approche avant l'échéance de la date indiquée. On use des moyens amicaux pour te pousser à rembourser la dette. Si malgré tout, tu n'arrives pas à rembourser, alors on te demandera de liquider la masse de garanties que tu as déposée pour payer ta dette. C'est vraiment très difficile d'en arriver jusqu'à ce stade.
Le secteur informel contribue à hauteur de 33% au produit intérieur brut du Mali selon des économistes. Professeur Abdoul Karim Djamouteni, économiste, souligne qu'un bon encadrement et un accompagnement du secteur permettra de minimiser les pertes en recettes fiscales pour l'État.
C'est un apport qui est considérable. On estime à plus de 33% la contribution du secteur informel à la création de la richesse. C'est le plus grand pourvoyeur de travail au niveau du Mali. Il joue un rôle important dans l'économie, mais cependant, c'est un secteur aussi très fragile parce que c'est un secteur qui bénéficie généralement de moins d'appui de la part de l'État.
La non-régularisation du secteur informel favorise l'évasion fiscale, déclarent les économistes. Les opérateurs économiques s'y réfugient pour maquiller le statut juridique de leurs activités, indique-t-il.